Merci à tous d'être venus aujourd'hui à cette journée. Et sujet déviant, sujet pervers, pathologie mentale et sexualité, expérience de l'autre. Et je veux juste vous dire quels étaient les propos principaux de ces journées. Et après ça, on va faire un petit débat entre nous. Alors, cette journée entendait développer une réflexion critique par rapport à la problématique du processus de formation des subjectivités divergentes. Et le but était donc de rassembler un groupe de chercheurs, en fait de chercheuses, en ces cas, et à caractère interdisciplinaire pour discuter des recherches en cours à partir de trois perspectives différentes. Celle de l'expérience de l'autre, la normale, le pervers, le déviant, et correspondant à la constitution d'un type de subjectivité qui est celle de la sexualité comme élément fondamental pour la constitution de l'identité contemporaine, et celle du champ épistémologique des sciences psy. Alors, les sujets déviants ou pervers sont ceux qui, par leur conduite ou leur apparence, ne s'adaptent pas à ce que la société dans laquelle ils évoluent considère comme normal, comme adéquat. Ils sont donc des anormaux, des autres, par l'expérience qu'ils sont de leur propre subjectivité, de leur désir, de leur corps, de leur vie, ce sont des sujets. Mais ils sont souvent aussi l'objet d'un savoir scientifique et d'un processus de pathologisation mis en œuvre par ce même savoir scientifique. Cependant, les sujets ne peuvent être considérés exclusivement comme des objets passifs. On retrouve partout, de la part des individus, des formes d'action qui modifient les contextes où ils subissent la normalisation, des pratiques de résistance, de provocation, de négociation, d'adaptation ou d'assimilation. Nous partions donc de la prémisse selon laquelle la déviation morale et la perversion mentale et, ou sociale ne sont pas des catégories ahistoriques, mais des objets contingents dont il est possible et même nécessaire d'examiner les itinéraires. Bon, on voudrait aussi remercier la Fondation Maison des Sciences de l'Homme et la collaboration aussi des... et du Centre Alexandre Coiré. Alors maintenant, c'est à vous.
Moi, j'en sais bien. Un thème sur la table, je pense qu'il nous est quand même tous assez transversal, c'est le lien entre les articulations, entre les discours qu'on étudie tous d'une manière ou d'une autre, hein, les discours, les représentations aussi, et les émotions, parce que c'est quand même ça aussi la fabrique des subjectivités. En fait, on l'a tous abordé d'une manière, tous abordé d'une manière ou d'une autre, mais c'est vrai que, enfin, il me semble que c'est un des objets qui nous est quand même transversal, quoi, au-delà de nos différentes approches disciplinaires, c'est quelle est la fabrique des affects, en fait, des différents types de subjectivité. Enfin, je sais pas si je dis une bêtise, je sais pas si vous ralliez à cette idée, mais voilà. Donc, moi, je lance ça sur la table, en espérant ne pas projeter mes propres problématiques sur vous, mais. Ah bah c'est, alors justement, c'est toute la question, en fait. C'est pour moi, c'est un point d'interrogation. C'est-à-dire là, bon, on en parlait tout à l'heure, entre de manière tout à fait officieuse, entre deux portes, la fabrique des émotions, c'est devenu un objet central aujourd'hui, bon, en particulier en France, dans le champ des sciences humaines et sociales. Et en même temps, ça reste un point d'interrogation parce que l'articulation du discours, des concepts, hein, des discours qu'on étudie, des sources, même des représentations esthétiques, des représentations culturelle aux émotions, c'est un circuit pas du tout évident. Comment on en arrive à fabriquer de l'émotion à partir de représentations collectives? Et ensuite, l'articulation entre les émotions et les comportements, effectivement, elle n'est pas du tout évidente non plus. Donc pour moi, c'est plus quelque chose de l'ordre d'un objet problématique. Par exemple, comment on fabrique du désespoir chez cette femme dont tu nous as lu le cas tout à l'heure, parce qu'il y a aussi ça, c'est la fabrique d'un sujet, comme tu disais, d'un sujet divisé, d'un sujet déchiré, c'est aussi la fabrique d'affects. Et enfin, moi, j'ai pas de réponse à apporter pour l'instant, en tout cas.
C'est une auto-réflexion sur notre activité des chercheurs en sciences sociales et sur les sujets qui nous occupent, ou quelque chose qui est relative à nos sources, en fait.
Les deux, voilà, c'est ça, ce sont les deux, parce que je pense, quand tu parles du masochisme, tu parles des affects aussi impliqués. Voilà, de manière centrale, la question des affects était là. Toi, tu as parlé du dégoût, tu as parlé du rapport au corps. Bon, voilà, chez les demi-mondaines, enfin, le suicide. Voilà, c'est la question de la requalification des affects aussi, de ce qui va être transformé comme étant de l'ordre de la... Enfin, ce qui pourrait être pensé, par exemple, sous les lumières, comme le chagrin d'amour, qui devient finalement un affect pensé sous le schéma de la pathologie. Et voilà, le cas que tu nous as cité. Donc, c'est à la fois nos sources, parce que dans nos sources, elles sont pleines de discours sur les affects. C'est-à-dire les subjectivités dont on parle, elles sont riches et incarnées, quoi. C'est pas juste des subjectivités labellisées, catégorisées par des discours. Là, je crois que là où il y avait peut-être le plus les affects sexuels les plus manifestes, c'était vraiment dans les discours et les représentations que tu nous as montrées. Et donc c'est des subjectivités riches, et en même temps, il me semble que c'est en tant que chercheur une question qui traverse toutes nos communications. Enfin, c'est pour ça que je mettais ça sur la table, parce que c'est peut-être un des points communs qui permet de relier toutes nos communications sur la question de la fabrique des subjectivités, quoi. Voilà, au-delà de nos approches différentes, au-delà... Enfin, je ne sais pas, c'est une hypothèse que je fais par rapport à tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Et...
Je vais essayer. Moi, ce qui me concerne, ce qui a animé ma recherche, c'était la théorie féministe. Donc voilà, moi, en tant que féministe, ça m'a dérangé énormément que la psychanalyse tourne autour du phallus, du complexe d'Œdipe et tout ce que j'ai pu développer ce matin. Et donc, comment les critiques féministes, post-féministes des États-Unis, comme Judith Butler, et françaises comme Kristeva, etc., ils sont pu critiquer la psychanalyse en tant que homophobe, phallocentrique, etc. Et ça m'a touchée énormément, parce que j'ai dit, effectivement, il faut aller au-delà de cette théorie classique et montrer que le féminisme peut apporter quelque chose à la psychanalyse. Donc voilà, c'était ma position de féministe qui m'a poussée dans ma recherche. Et c'est pas, et j'ai l'impression que finalement, dans tout notre exposé, il y a quand même le féminisme qui est au centre. Dans tous les discours que j'ai pu entendre, il y avait toujours la pensée féministe qui sortait malgré nous. Je sais pas.
Pensée qui peut créer des perversions, donc. Hein, parce que c'est ça où ça devient intéressant. C'est que on croit gagner quelque chose et puis on crée un retour qu'on perçoit comme négatif, qui est l'apparition de perversions autour de femmes bondagées, attachées, mises en boîte, etc. Et là, on est pris au piège. Parce que si on se met à critiquer ça, en fait, on critique aussi le phénomène du féminisme et des avancées des droits de la femme qui sont corrélées complètement à la naissance de cette perversion qui est arrivée en réaction à ce discours. Et donc, on est pris au piège, parce que chaque fois qu'on va de l'avant, on crée un choc en retour, ce que j'appelle la réplique, donc, de l'onde sismique provoquée par les avancées des droits de la femme. Et la réplique est indispensable pour aider la société à se reconfigurer et à rétablir son équilibre. Donc c'est très compliqué à gérer d'essayer de croire, en fait. On est toujours dans la croyance qu'on va arriver à arranger les choses. Et en fait, on génère des choses négatives qu'on appelle perversion, qu'on stigmatise, hein, qu'on essaye de refouler. Et puis du coup, en essayant de refouler, de marginaliser ce qu'on appelle les perversions, on en crée d'autres ailleurs. Et on est sans cesse dans cette sorte de chassé-croisé ou essayant de bannir le mal, finalement, ce qu'on considère comme le mal. On en génère un autre à un autre endroit, etc. Donc on accepte l'homosexualité dans le DSM, et puis du coup le stigmate se reporte sur les homosexuels mobiles, et on est pris au piège, vraiment. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Finalement, c'est accepter la perversion et accepter le mal dans la société comme également un facteur de... un révélateur des mouvements qui la traversent, hein, des mouvements de pensée... De l'évolution des idéologies, des discours idéologiques.
Merci. Oui, il y a quelque chose que j'ai bien aimé que tu as dit. C'est pas exactement une définition de la perversion, parce qu'on n'est pas ici pour chercher des nouvelles définitions, mais plutôt pour adresser des problèmes. Et j'avais pas pensé, en fait jamais, le fait que la perversion c'était peut-être le résultat de la friction entre des représentations diverses et sur un tréfonds qui est un mouvement permanent. Tu as dit, tu as utilisé la métaphore des plaques tectoniques. En fait, ça, c'est une idée que j'ai bien aimée. Et en ce qui regarde mon sujet, qui c'était le potentiel émancipateur dans son sens politique du masochisme, mais aussi en général des perversions, je pense qu'effectivement, les sentiments, les affects sont très, très, très importants parce que, comme je disais, ce n'est pas l'acte sexuel en soi qui est transgresseur, mais la possibilité, et ça c'est une condition très forte, la possibilité de créer des nouvelles formes d'affectivité et des rapports affectifs. Donc si cela, je pense, c'est mon idée, mais si cela n'est pas possible, s'il n'y a que des différents... et modalités plus ou moins standardisées, plus ou moins visibilisées par les médias, alors c'est très compliqué de dire que vraiment il y a un potentiel émancipateur ou de transformation de la société ou de la culture.
Il y a une chose... à laquelle j'ai pensé durant la journée, c'était la question du facteur de risque. Alors, s'il y a des comportements qui ne sont plus considérés comme pathologiques, comme l'homosexualité qui n'apparaît plus dans le DSM, on pourrait néanmoins trouver, et peut-être pour d'autres cas aussi, pas seulement pour l'homosexualité, mais on peut trouver aussi l'utilisation de ces ex-perversions ou ex-pathologies comme des facteurs de risque. Alors, il y a d'autres choses qui peuvent être, selon certains cas, des facteurs de risque. Être homme peut être un facteur de risque, femme peut être... Donc, ce n'est pas toujours si clairement pathologique à une époque ou une autre. Mais, par exemple, j'ai vu un cas où, et ce n'est sans doute pas le seul, où on parle de l'homosexualité d'une personne comme étant un facteur de risque. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas là... Enfin, pas un cas, j'ai un autre cas, mais ça, on voit dans beaucoup d'études. Et est-ce que ça ne stigmatise pas quand même, ça garde une stigmatisation qui peut être utilisée quand même pour... pas nécessairement pour punir, mais ça garde ces déviances quelque part dans la marge entre le pathologique et le criminel. Et donc un cas qui m'a fait penser à ça, je voulais le présenter comme une sorte d'ouverture, mais après je me suis dit que ce ne serait pas très subtil étant donné ce qui s'est passé à Paris. Mais c'est quand même vachement intéressant, c'est qu'en fait, il y a une année ou deux, il y avait ce pilote qui... allemand qui a cette année hein, qui a explosé l'avion dans les Alpes hein, c'est un suicide présumé. Alors dans les articles on trouve, alors la source n'est pas révélée, mais donc reste anonyme, mais ça reste quand même intéressant que ça a fait le tour du monde dans les médias, le fait que on a vu que cet homme allait sur des sites porno homosexuels et qu'il était déprimé. Donc, et on utilise déjà, comme si c'était déjà, qu'est-ce que c'est si c'est plus une pathologie? Enfin, en tout cas, être homosexuel, c'est pas une pathologie. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cette information dans un cas voilà, brûlant comme ce cas-là? Voilà.
Je ne pourrais pas répondre à cette question-là, mais en tant qu'historienne, moi, ce que je vois par rapport à cette question de facteurs de risque, c'est que la norme, pour exister, a toujours besoin de contre-exemples. Et que tant qu'on n'a pas d'autres contre-exemples à mettre sur la table, on ne peut pas totalement se débarrasser des pratiques qu'on a dépathologisées, entre guillemets. Et force est de constater quand même qu'on a tous abordé le contemporain aujourd'hui, et c'est pas, à mon sens, uniquement parce que l'aliénisme, l'étude des sexualités s'est développée au 19e siècle. Je pense que si tout ça s'est créé, c'est parce qu'aussi, après la Révolution française pour la France, mais plus globalement pour le monde européen, et alors peut-être que c'est différent pour le Japon, il y a des choses qui se sont passées de façon extrêmement importante vis-à-vis de la norme à partir de cette époque-là. Et on peut aussi penser que toute cette explosion, justement, de perversion, d'identité sexuelle différente, de subjectivité, ça révèle tout simplement une norme qui se renforce et qui se construit comme culture hégémonique. Et que c'est à partir du moment où cette sexualité hétérosexuelle est vraiment installée qu'il y a besoin de cette perversion comme échappatoire et comme exutoire, et qu'il n'y en avait peut-être pas besoin autant sous l'Ancien Régime pour l'Occident, parce que tout simplement, l'identité sexuelle n'était pas au cœur de l'identité des individus telle que ça émerge à l'époque contemporaine. Donc après, je laisse la parole pour les gens qui travaillent sur le plus contemporain, parce que moi, je suis coincée dans le 19e siècle. Mais effectivement, vraiment, je trouve qu'il y a une sorte de course entre normes et contre-normes qui laisse voir qu'il y a des enjeux profonds sur la construction des identités vis-à-vis de ça, et que très clairement, la sexualité n'avait pas, à mes yeux, autant d'importance dans l'identité des gens. Et que ça nous transforme autant sur le domaine de la sexualité que sur le domaine politique et social.
Alors oui, on assiste effectivement à l'explosion des perversions au Japon avec la modernisation, c'est-à-dire avec l'ouverture à l'Occident, ce qui est assez révélateur peut-être d'un passage. Je fais une équivalence dans le domaine de la religion. C'est-à-dire le Japon plus ou moins découvre ce qu'on appelle l'orthodoxie par rapport à l'orthopraxie. C'est-à-dire, au Japon, la religion, le fait religieux se pratique sous la forme essentiellement de rituels, et il s'agit d'accomplir correctement les choses. Donc orthopraxie, c'est le bien faire. Et puis au Japon arrive la notion de religion en tant que orthodoxie, c'est-à-dire bien penser. Et là, peut-être, il faudrait corréler cette découverte un peu traumatisante, en fait, où brusquement, les gens sont censés croire en l'existence de divinité, d'esprit surnaturel, de l'invisible, ce qui jusqu'ici n'était pas... Enfin, ça comptait pas. Ce qui comptait, c'était bien accomplir les rituels, la chorégraphie posturale et des gestes, etc., qui, d'une certaine manière, correspondait à des règles du jeu. Et si on respecte les règles du jeu, peut-être qu'il va se passer quelque chose, mais peut-être pas. Au fond, qu'on y croit ou pas, on s'en fiche. Et puis, brusquement, voilà, l'orthodoxie arrive, et maintenant, il importe de bien croire. Et je pense que ça correspond au même, à ce même tournant que tu désignes sous l'apparition de la notion d'identité. C'est-à-dire, brusquement, il importe de savoir qui on est. Et j'ai l'impression que ça correspond à l'idée d'une orthodoxie de l'être humain. C'est, il importe de savoir quelle est son identité sexuelle, et non plus juste, il importe de faire telle ou telle chose pour... Après, je ne sais pas ce qu'on met derrière. Voilà, c'est une hypothèse, mais
Et quel est, à votre avis, le rôle des moyens de communication dans cette explosion d'identité sexuelle, ou pas forcément sexuelle, différenciée, qui s'impose, les rôles des moyens de communication, d'Internet et de tout ça?
Alors, là encore, j'aurais peut-être du mal à parler d'Internet en tant qu'historienne, mais moi, je pense que, et peut-être que ça revient sur les questions que tu posais sur discours et affect, qu'en fait, le va-et-vient, il est permanent entre les discours et les pratiques, qu'on va chercher des discours qui vont renforcer nos propres pratiques, et qu'en l'absence de discours, on va aussi émettre des nouveaux discours pour mettre des nouveaux termes sur des pratiques qui, justement, n'arrivent pas à avoir d'écho discursif. Et je pense qu'il y a ce besoin de créer du sens qui passe effectivement par l'altérité et pas l'altérité avec, j'allais dire, le potentiel partenaire sexuel ou celui à qui on parle directement, mais aussi l'altérité à travers les médias pour s'identifier à des façons d'être existantes ou pas, et justement en dépassant un contexte spécifique. Je pensais par exemple à l'importance qu'ont pu avoir, par exemple, pour des jeunes homosexuels en Europe, ce qui se passait à un certain moment aux États-Unis, qui tient autant de l'ordre du fantasme de ce qui se fait aux États-Unis que d'effectivement d'une réalité où à San Francisco, la vie des homosexuels était plus libre. Mais je pense qu'il y a vraiment un besoin du discours, et que ce discours, il a toujours existé. Et Antoine Hilty, par exemple, a travaillé sur la célébrité, l'invention de la célébrité au XVIIIe siècle. Et on voit exactement les mêmes mécanismes que ce qu'on peut voir aujourd'hui avec les people, etc. Lui, il émet cette idée, du coup, que les médias, et c'est là où peut-être je ne suis pas d'accord avec lui, finalement, n'ont fait que grossir le phénomène par rapport à ce qui existait déjà au XVIIe ou au XVIIIe. En tant que 19e-iste, j'ai envie de dire non. Et je pense que ce qui a pu changer, et peut-être avec Internet, mais avant, avec la photographie, c'est la place de l'image dans l'identité. Alors déjà, il faut se rappeler qu'il y a un temps où les miroirs étaient un objet de luxe et on ne se voyait pas souvent. Mais je pense vraiment que l'émergence de la photographie, qui a posé vraiment des questions de qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, que ne posait pas vraiment dans les mêmes termes la peinture, a cristallisé aussi des inquiétudes et des enjeux autour du corps. Alors ça peut paraître bizarre puisque l'image est finalement pas le corps matériel. Mais là aussi, je pense que si Internet a pu jouer ou si les médias ont pu jouer, c'est effectivement aussi dans cette diffusion de l'image et pas uniquement dans la diffusion du discours. Je ne sais pas si tu...
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est juste pour rajouter, bon voilà, y a la diffusion des discours, voilà, de manière évidente, hein, dissémination, mais ça, en ça, on pourrait... Je ne sais pas si on pourrait dire que dans la dissémination du discours, il y a une rupture qualitative via Internet, parce que finalement, ça se faisait par d'autres voies avant. Mais je crois qu'il y a ce que tu dis sur l'image, et puis il y a aussi la constitution de communauté. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument essentiel à la subjectivité contemporaine. C'est des subjectivités qui sont collectives. Et les actes de résistance, les actes d'appropriation, ils ne sont pas tant individuels qu'ils ne prennent sens au sein parfois de micro-communautés, hein, qui vont être composées de plusieurs centaines de personnes. Mais alors, ça va être particulièrement visible du côté des sexualités, mais aussi ailleurs. Hein. Vous connaissez les entendeurs de voix, par exemple. Voilà, donc ces gens qui ont des hallucinations auditives et qui sont constitués en ce qu'on appelle aujourd'hui des groupes d'usagers. Mais ce n'est pas que ça. C'est une manière de s'approprier les voix pour vivre avec et de passer par une voie alternative à celle de la psychiatrie. Et sur les sexualités, je crois, bon, bah voilà, sur le BDSM, c'est quand même absolument central, cette constitution d'une subjectivité collective à travers une communauté qui va passer essentiellement aujourd'hui par Internet, quoi. Donc, et je crois que pour nous, là, pour revenir à nouveau, faire l'aller-retour entre nos objets et puis nos pratiques de chercheurs et de chercheuses, je crois que pour nous, en termes de sources, c'est absolument merveilleux. Il faut quand même le dire. Je veux dire, en termes de récits du fort intérieur, on a accès à des récits du fort intérieur qui sont quelque part des récits du fort intérieur collectif aussi, parfois, avec des élaborations sur des forums, etc. Et qui sont des types de documents qui, pour quelqu'un qui est contemporanéiste, sont merveilleux, quoi. Voilà, c'est...
Oui. Non, en fait, justement, par rapport à ton exposé, j'avais cru comprendre un moment... tout au début, hein, peut-être justement ça a changé après Foucault, mais que les masochistes avaient du mal à se rassembler, à créer du lien social et à être en communauté, que c'était quelque chose de très pathétique, qu'il fallait pas montrer, que voilà.
que ça ne crée pas du lien. Est-ce que tu penses qu'actuellement, c'est toujours le cas, que les masochistes restent un peu dans son coin, isolés, ou qu'il voilà, y a des associations ou des dispositifs qui font voilà, des communautés?
Et non, absolument pas. Ce que je pense, c'est que le masochisme tel qu'il était vers la fin du 19e ou début du 20e siècle était une chose, vraiment, j'hésite à le considérer comme le même sujet, le même objet d'étude, parce que pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont absolument différentes entre eux, et qu'on appelle masochisme, mais qui ne sont pas la même chose. Alors, il y a des témoins dans la psychopathie asexualiste, du craft-tabbing, en première personne de ces masochistes qui disent « Eh bien, je fais une enquête dans plusieurs villes d'Europe. Je suis allé à Paris, à Vienne, à Londres. Je trouvais beaucoup des témoins. » Alors, ça a été lui qui allait. Mais il n'allait pas normalement parler avec les autres masochistes. Tout le monde allait parler en fait avec les prostituées. C'est ça la source principale. Alors on n'a pas absolument. On sait qu'on est beaucoup. Il dit il y a beaucoup de masochistes en Europe, mais il n'y a pas vraiment une sensation. Ils ne se connaissent pas. Il y a pas. Ils sont isolés, les uns des autres. Et alors ce qui arrive maintenant, c'est quelque chose de absolument différent. Parce que, oui, effectivement, il y a des communautés qui se connaissent à travers l'Internet, des groupes sociaux, comme ça. Il y a la formation des groupes, même politiques, donc, c'est quelque chose qui a à faire avec les pratiques, mais que, en quelque sorte, va hors les pratiques. Et puis, comme j'ai dit, il y a aussi un énorme écho dans des représentations du masochisme à travers le cinéma, par exemple. Ça existait déjà d'une certaine façon, en fait, parce qu'il y avait la littérature qui véhiculait beaucoup des fantasmes et de l'imaginaire masochiste. Mais ce qui arrive maintenant avec des romans ou des films tels que, on l'a déjà dit, 50 nuances de Grey, c'est vraiment une valorisation de ce genre de pratiques. Et il faudrait là voir quel genre de valorisation il y a là-dedans et quelles sont les valeurs qui sont en promotion, parce qu'effectivement il y a toujours ce phénomène dont à chaque fois qu'on combat une forme d'orthodoxie, dans ces cas la thèse de la répression des personnes qui ne parlent pas de son désir, qui ne font pas visible précisément justement l'identité sexuelle, est substituée par un autre genre d'orthodoxie. Je veux dire, il y a certaines perversions qui sont plutôt un indice de succès. L'être hypersexualisé n'est pas forcément dans notre société quelqu'un qui est marginalisé. Et au moins, oui, parfois dans les discours médicaux, il est pathologisé, mais vraiment, aujourd'hui, le problème serait d'avoir 30 ans et d'être vierge encore. Ça serait la catastrophe, pas le...
Les moyens de communication et tout ça, c'est vrai qu'on a oublié quand même un sacré sujet, c'est la pornographie. C'est-à-dire qu'effectivement, là, tout d'un coup, la distinction qu'on a fait ce matin entre petits pervers, grands pervers, bah, tous les petites perversions sont mises en évidence en tapant sur Google. Voilà, d'ailleurs, les mots les plus tapés dans l'univers, c'est sexe. Et tout le monde va voir et c'est à porte de main. Ça aussi, ça a changé les rapports à l'autre sexe. Comment on a...
Sa propre sexualité.
Et elle a sa, exactement, à sa propre sexualité. Oui.
Dans les sens positifs et négatifs.
Tout à fait. Donc effectivement, voilà, je pense que si on s'est réunis une prochaine fois, ce serait important de penser à aborder le sujet de la pornographie, parce que bon, ça a changé le lien à l'autre au niveau sexuel quand même. On a l'imaginaire qu'on peut avoir du rapport sexuel.
Moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Guillermo, parce qu'il se trouve que hier, pour une autre journée d'études, j'ai eu le plaisir d'écouter Gilles Chantraine évoquer les débuts de sa recherche sur le BDSM. Donc, il a plusieurs aspects de ses travaux, mais lui, il a une partie qui, justement, travaille sur les communautés. Et il disait que ce qui était intéressant, c'est que certains de ces groupes ont à la fois une activité de démocratisation du BDSM en organisant par exemple des apéros, débats, je précise, pas des apéros pratiques, mais ça doit se faire aussi, mais là c'était vraiment dans des bars avec distribution de flyers pour justement ne plus faire peur et montrer que le BDSM c'est quelque chose d'accessible, j'allais dire ouvert à tous, enfin limite un vrai programme de parti démocratique, mais qu'à la fois au sein de ces mêmes communautés et face à cette valorisation et cette popularisation du BDSM à travers des œuvres, je ne sais pas si on peut parler d'œuvres, mais de 50 nuances de grès, etc., il y a aussi un retour sur nous on fait du BDSM authentique. Et qui a aussi du coup vraiment ce jeu entre on ne veut pas être pathologisé, on ne veut pas être déviant, et en même temps, la norme, c'est pour les nuls. Enfin, il y a un peu ce jeu sur on ne veut pas effectivement être dans cette déviance négative. Pour autant, il y a une déviance qui est positive vis-à-vis de la norme et qui crée effectivement ce jeu communautaire d'authenticité, d'identité collective et de nous, on joue avec ses frontières bien plus que tout le monde. Voilà, donc je trouvais ça intéressant de rajouter ça au débat.
Je voulais relancer sur une autre chose, en fait, qui relie les communautés qui s'est créées sur Internet, les discours de la perversion, de la pathologie, la pathologisation et les DSM. En fait, les transability, c'est-à-dire les Bad Integrity Identity Disorder, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, et ce qui est un sujet difficile, à mon avis. Moi, je ne suis pas du tout experte, mais si quelqu'un a quelque chose à dire, ça m'intéresse.
Alors, du coup, on rattrape sur la question de l'identité tout à l'heure. Alors, la difficulté, c'est que il faut à la fois éviter une histoire rétrospectiviste et puis en même temps aussi d'introduire des distinctions au moment où elles n'existaient pas. C'est-à-dire que la question en fait de l'identité de genre séparée de ce qui relève de l'orientation sexuelle et des objets du désir, elle a, je ne vais pas dire qu'elle n'a pas de sens, mais quasiment pour toute une partie du 19e siècle en fait. Et c'est vraiment à partir de peut-être plutôt des discours sexologiques qu'on pourrait considérer d'abord comme des discours militants, bon, par exemple chez Ulrich, mais aussi chez Rafalovitch en France, voilà, celui qui a été nommé par Patrick Cardon, le pionnier des gay studies, où on va commencer à trouver effectivement des distinctions claires entre l'objet de mon désir et puis ce que je suis en tant qu'homme ou en tant que femme. Et du coup, le problème, c'est que les questions trans, elles ont été à la charnière de ça. Aujourd'hui, effectivement, on va dire à partir des années 1950, il y a une dynamique continue qui a vraiment scindé la question de l'identité de genre. Et du coup, de ce qu'on a appelé par la suite le trouble de l'identité de genre, de la question de ce que nous, on considère comme les perversions. Je crois que c'est aussi pour ça qu'on n'a pas du tout abordé la question, en fait. Mais si on ressaisit, effectivement, parce que si on l'aborde aujourd'hui, on se retrouve à nouveau à faire peut-être ce que d'une certaine manière on ne voulait pas faire au sens où on voulait faire quelque chose d'alternatif, c'est-à-dire parler des sexualités et pas seulement du genre. Et parce que c'est très important de parler du genre, mais il faut aussi parler.
C'est une sexe du genre. Non. Dans la question de. Vas-y.
Oui. Parce qu'en fait, tu as posé la question sur le BID, c'est ça, BID, mais en rapport à transgenre ou...
Non, en général, la transhabilité.
Non, parce que ça, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a BID,
ID, DIB, je ne sais plus. Non, c'est BID en français. C'est plus facile à se retenir. C'est Body Identity, Integrity Identity Disorder. C'est très spécifique quand même. Ce n'est pas vraiment forcément lié au transgender. Par contre, c'est quelque chose... Mais c'est très intéressant parce que les médecins font les liens.
Oui, non, je n'avais pas compris.
C'est pas transgender, c'est trans quelque chose d'autre, transhabilité.
Ben non.
Mais ça, je connais, tu vois, ça c'est. Ouais. Ça correspond le body identity.
C'est, en fait, c'est très, très précis. C'est, il y a une.
Body integrity.
C'est une personne qui.
C'est la dysmorphophobie qui poussait.
Non, pas tout à fait. Ben, c'est très précis.
L'auto-amputation.
Oui, mais sur un membre, donc. Non, c'est le cas où il y a un membre qui gêne, qui fait que la personne ne se sent pas entière, selon les témoignages. Donc, qui sent qu'il y a un membre de trop, ce qui est très intéressant. Donc, il faut amputer un membre pour se sentir entier. Donc, il y a un certain paradoxe là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les psys aujourd'hui, c'est assez récent quand même, BID, ils ont relié et relient ça à transgender. Ce qui est quand même assez curieux, parce que du coup, c'est comme dire que, en fait, c'est juste qu'il y a un manque d'un membre chez un quelqu'un qui est transgender, ou un de trop. Donc, c'est vraiment, ça montre à quel point l'approche du transgender est vachement simple aujourd'hui, mais aussi une mécompréhension du BID.
Non, mais l'origine historique, dont je ne sais rien, moi je viens des livres, en fait, les termes qui étaient utilisés par cette perversion, qui est aussi une perversion sexuelle, qui était identifiée évidemment pour Krafft-Ebing comme une perversion sexuelle, c'était celle des acrotomophilies. Les sujets qui souffrent de cette déviance sont attraits, attracted, par des personnes amputées.
Alors, c'est pas.
Non, explique-moi.
En fait, j'ai un peu bossé sur l'histoire du body dysmorphic disorder. Et en fait, alors c'est aussi pour répondre à ta question, cette bizarrerie hein, qu'il y a de rapporter ça au transgenre, c'est que l'histoire de la dysmorphophobie, donc ce qui était ce qu'on appelait avant le nom de la catégorie avant body dysmorphic disorder, c'est une histoire du corps qui n'est pas adéquat à l'esprit. Voilà. Et en fait, le corps qui n'est pas adéquat à l'esprit, c'est aussi comme ça, premièrement, à la fin du 19e siècle, au début du 20e, c'est comme ça que les personnes transgenres et les psychiatres ont pensé les personnes transgenres. C'est plus un esprit qui n'est pas adéquat à son corps biologique, donc quelqu'un qui est aliéné, mais ça a été le renversement au moment où on s'est dit, c'est pas l'esprit qui est fou parce qu'il ne veut pas coller au corps, hein, parce qu'il y a une erreur de l'esprit par rapport au sexe naturel, biologique, mais c'est au contraire. C'est le corps qui n'est pas adéquat à l'esprit. Il va falloir rendre le corps adéquat à l'esprit en le transformant. Donc, en l'occurrence, en transformant le sexe biologique pour rendre adéquat au vrai sexe qui serait non pas dans les organes, mais dans l'esprit. Et je crois que de la même manière, c'est pour ça que le body dysmorphic disorder, c'est aussi ça. C'est l'idée d'une inadéquation du corps qui est perçue par le sujet. Et donc, cette obsession à la fois permanente de cette partie du corps, et du coup, dans certains cas, effectivement, cette obsession de vouloir la rendre adéquate à ce qui serait son vrai moi. D'où, du côté du body dysmorphic disorder, pendant tout le XXe siècle, hein, mais ça a commencé tôt, c'était le recours à la chirurgie esthétique de plus en plus poussée. C'est pour ça qu'il me semble qu'il y a vraiment, à la fois, ça s'explique cette bizarrerie de les rapporter aux transgenres, parce que je pense vraiment que ça s'enracine dans une histoire longue, en fait, sur ce renversement du rapport de l'esprit au corps. C'est-à-dire, à partir du moment où on a les moyens techniques d'intervenir sur le corps, ben, la possibilité de changer le corps pour le rendre adéquat à l'esprit, ça devient quelque chose de possible et pensable, c'est plus absurde, quoi. Le corps, c'est plus un destin. Voilà. Je crois que. Il me semble que c'est les conditions de possibilité logiques et anthropologiques qui expliquent ces liens qui ont pu être faits.
Est-ce qu'il y a un but atteint, justement, dans les modifications du corps, dans
Oui. Je n'arrive pas à le retenir, celui-là.
C'est pas le même. Parce que dans le BID, le body identity, integrity disorder, je me demande si.
Je sais pas, ça faudrait demander peut-être à un clinicien parce que, ou au sujet lui-même, parce que par exemple, le sujet, le sujet dysmorphophobique, le but n'est jamais atteint. Mais ça, c'est ce que disent les intervenants psy. Alors, est-ce que c'est à nous de le dire, d'un autre côté ? C'est parce que, voilà.
C'est. La seule chose que je savais, c'est que la communauté est transhabile, je ne sais pas en français, transhabile, oui, elle travaille pour être dans les DSM. J'en sais rien où elles en sont, s'ils sont dans les DSM-5, mais... Eh oui. Pour avoir accès à, pour avoir une reconnaissance de la part des médecins, pour avoir accès vraiment à la chirurgie et pour le développement des protocoles diagnostiques et tout ça.
Là, c'est un enjeu aussi économique et médical. Il faut être intégré dans les formes de pathologisation pour avoir le droit aux ressources qui vont vous permettre de changer votre corps, oui.
Ça pose aussi la question de jusqu'où tu peux maîtriser, où tu as droit sur ton corps. Parce que est-ce qu'il faut un diagnostic psy qui va dire non, t'es fou, tu peux pas te faire amputer un membre parce que ça t'appartient quand même pas, c'est trop. Ce qui d'ailleurs amène beaucoup de ces personnes qui souffrent de bide à se faire massacrer ce membre maudit pour enfin se faire amputer. Donc là, il y a vraiment une confirmation de la médecine, mais aussi de la loi qui dit non, il y a quand même des limites. Donc, c'est la même chose pour le suicide, effectivement. Mais sur les modifications du corps, c'est assez intéressant parce que tu peux te modifier le corps. Dans beaucoup de moyens, jusqu'à des états assez extrêmes, finalement, mais il y a quand même des limites. Donc, ça, c'est intéressant où on s'arrête. Et d'ailleurs, pourquoi on ne peut pas se faire amputer un membre, mais par contre, on peut se faire, extraire d'autres parties du corps. Enfin, on peut se faire extraire des dents, si on a envie, et c'est pas trop grave, on pourrait dire, non ? Enfin, bizarre, mais la loi ne va pas t'arrêter, ni la médecine.
Il y a d'autres cas hein, qui sortent de ça. Par exemple, rien n'interdit dans la loi à une femme qui ne veut plus d'enfants de se faire stériliser volontairement. Et pourtant, il n'y a aucun médecin qui prendra le risque de le faire parce que sait-on jamais si elle change d'avis. Et donc là, effectivement, ça pose aussi plein de questions sur comment une femme n'a pas le droit de choisir une opération ou pas qui l'empêche d'avoir des enfants sous prétexte que les médecins ne veulent pas prendre de risques parce qu'ils sont persuadés qu'elle changera forcément d'avis parce qu'une femme a forcément envie d'avoir des enfants, même si elle en a déjà eu. Et c'est vrai que c'est des cas un peu limites, mais qui permettent, je pense, de voir à quel point, effectivement, ça pose ces questions de à quel point ton corps t'appartient.
Oui, puis ça met en évidence le décalage entre là, ce qui serait de l'ordre d'un point de vue juridique, et puis, de l'autre côté, ce qui se joue en pratique, c'est-à-dire les normes qui sont incarnées et implémentées dans les pratiques. Mais je pense qu'en fait, je ne vais pas dire ce que je vais dire. Hein. Je ne dis pas que là, c'est la même chose de se faire refuser une stérilisation que l'on a demandée que de se faire arracher des dents. Mais je pense que si on va chez le dentiste et qu'on dit, voilà, moi, je vais me faire arracher toutes les dents, je pense qu'en pratique, il refusera aussi. De la même manière qu'un médecin ne fera pas une ligature des trompes, même si j'y ai droit. En tout cas, si la loi ne m'en empêche pas. La loi ne m'empêche pas de me faire arracher toutes les dents, mais je pense que je ne trouverai absolument aucun dentiste qui acceptera de le faire.
Mais je crois que ce n'est pas légal d'amputer un membre,
un membre, oui, mais je pense que les dents, je peux les faire enlever. Mais par contre, aucun dentiste ne le fera. Voilà, c'est ce qui était. Oui, mais c'est ce que tu soulevais, c'est-à-dire, en fait, la loi ne m'empêche pas de me faire ligaturer les trompes, mais aucun médecin voudra le faire. Enfin, si j'ai de la chance, je tomberai peut-être. Alors, je pense que le dentiste, par contre, c'est la différence en faisant varier les cas. Je pense qu'il le refuserait au motif d'une certaine, non pas intégrité corporelle, mais intégrité fonctionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, il causerait un dommage à mon corps s'il le faisait. Alors que là, en l'occurrence, pour la stérilisation, est-ce que ce serait un dommage causé à mon corps ? La question est plus ouverte, quoi. Mais alors sur le membre, je pense que là, il faudrait reprendre historiquement, parce qu'il doit y avoir tellement de choses qui sont complètement relatives au contexte, que ce n'est pas fondé en raison, si on peut dire, enfin, ce n'est pas fondé en raison de manière absolue.
Il doit y avoir une histoire au XXe, comme ça, de l'intégrité du corps, que je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre nous est à même de répondre à ces questions-là. Oui, non, moi non plus. Au-delà de
la communauté des asexuels, asexuels, ça, c'est quoi? C'est une perversion?
Alors non.
C'est une absence de quelque chose?
Non, c'est considéré comme un trouble psychosexuel, mais pas une paraphilie ou un trouble paraphilique, en fait. Mais c'est assez, le statut est assez compliqué parce qu'ils sont dans la volonté d'une reconnaissance de leur absence en tant que communauté, hein, comme n'étant justement pas un trouble. Donc, alors, c'est pour ça que c'est compliqué d'en faire l'opposé des sex addicts, par exemple. Parce que du côté de l'addiction sexuelle, il y a un truc qui est marquant, c'est l'auto-assignation de soi comme addict sexuel et la recherche thérapeutique. J'ai un problème, je veux me faire soigner. Les asexuels, c'est le contraire, c'est je n'ai pas de problème, ce n'est pas pathologique. Voilà, exactement. Exactement. Donc, alors que c'est tout à fait hétérogène par rapport au 19e, parce qu'au 19e, l'hyposexualité, l'hypersexualité sont vraiment, c'est vraiment une question de gré. C'est le défaut d'un côté, l'excès de l'autre. Aujourd'hui, on ne peut pas opposer le sexe addict à l'asexuel. C'est vraiment, il me semble que c'est des dynamiques même de constitution de subjectivité tout à fait différentes, quoi. Avec cette question, comment on en arrive à s'auto-diagnostiquer comme addict sexuel et à demander de la thérapie, quoi. C'est quand même quelque chose de... Enfin, moi, je trouve ça complètement exotique, très étrange.
C'est vraiment le sujet essentiel qui a été soulevé. Hein. C'était l'idée que la souffrance est un critère pour distinguer la petite de la grande perversion, etc. Et donc, ça, on part du principe qu'on n'a pas le droit de souffrir dans le domaine des affects, ni de la sexualité, qu'il faut être heureux. Et que dès qu'on est malheureux, dès qu'on éprouve des troubles, dès qu'on est perturbé, dès qu'on est bouleversé par quelque chose qu'on a fait ou qu'on n'a pas réussi à faire, etc., on tombe dans quelque chose où il faut demander de l'aide et se faire soigner. Et je trouve ça assez inquiétant qu'on vive dans ce régime de pensée-là et que la perversion soit essentiellement corrélée à l'idée de la douleur, hein. Comme si on n'avait plus le droit en tant qu'être humain, on est bourré de contradictions, et puis finalement, la sexualité est aussi une passion, donc il faudrait accepter ça, mais voilà.
Surtout, je voulais finir avec ma phrase, toute sexualité est perverse, donc il ne faut pas oublier ça. Tout mode de sexualité passe par la perversion quand même, donc les stigmatiser, pour moi, ça n'a pas de sens.
Juste pour rebondir sur ce que disait et terminer, bon, on en avait déjà parlé, mais il y a effectivement cette chose extrêmement prégnante dans l'économie affective contemporaine, c'est que un des affects cardinaux dans la représentation qu'on a, mais aussi dans les effets régulateurs normatifs que ça a sur nous aujourd'hui, c'est le bien-être. L'affect cardinal de l'individu contemporain qui va bien, c'est qu'il doit se sentir bien et que ce bien-être, c'est un affect régulateur. Et à partir du moment où, par exemple, je me sens mal au travail, c'est qu'il y a trouble, et ce trouble, il est d'emblée psychologisé, on le sait bien, hein, je veux dire, ce ne sont pas les gens qui font de la sociologie critique du travail qui tiennent le haut du pavé sur ces questions-là. Hein. C'est immédiatement une psychologisation, une naturalisation des troubles et une prise en charge individuelle plutôt qu'une considération critique sur les conditions sociales qui amènent à des malaises. Et donc voilà, et c'est pareil dans le domaine de la sexualité, c'est-à-dire que le bien-être, c'est même devenu un droit. La santé sexuelle inclut le bien-être. Les droits sexuels incluent le bien-être et la sexualité est considérée aujourd'hui comme un droit auquel on doit avoir accès. Voilà. Non, mais ça fait partie des choses qui sont dans les constellations de droits et qui parler de santé sexuelle, ça inclut aussi la santé affective qui est définie par cet affect qui est le bien-être. Et effectivement, à partir de ce moment-là, tout ce qui va rompre, hein, tout ce qui va être malaise, qui rompt avec ce vécu de bien-être, notamment du côté de ce qui est vécu par le sujet comme une dépendance, par quelque chose qui le dépasse, immédiatement, il va y avoir demande thérapeutique. Hein. Là, c'est pas les grands méchants intervenants psy qui vont aller voir les individus en leur disant vous êtes addicts. C'est eux-mêmes qui sont en demande thérapeutique.
Et pour guérir la mélancolie, des médicaments. C'est là là où on retombe sur l'idée du suicide. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit à la mélancolie. Donc maintenant, il faut peut-être... Oui, c'est, on va... Voilà, c'est, on va pousser les gens à faire l'impasse sur cette étape nécessaire, parfois, dans la vie d'un être humain, d'une bonne déprime qui permet de remettre un peu les choses au point dans sa vie. Je trouve qu'on a trop tendance à toujours vouloir traiter les passions comme forcément négatives dès qu'elles nous font toucher un peu des sentiments dits négatifs, hein, qui peuvent être au contraire extrêmement nécessaires, voire obligatoires pour passer à l'étape suivante.
Non, mais juste une remarque aussi à ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le DSM, il vient d'inclure, je ne sais pas si c'est cette dernière version, édition ou la précédente, le temps que le deuil peut durer. Oui. Donc, je crois que c'est 2 mois, non ? Le maximum ? Moi, c'est très court, hein, c'est hallucinant en fait. Et peu importe si c'est l'enfant ou ton chien ou quelqu'un que tu connais à peine, un ami d'un ami.
Il y a une durée prescrite.
Il y a une durée prescrite, après ça devient pathologique. Donc c'est effectivement très intéressant ce paradoxe. 6 mois ?
Moi aussi, je pense
à
5 ou 6 mois.
Non,
j'ai entendu 2 mois.
Chaque version, ça.
Et on est arrivé à 2 jours.
Alors, je vais balancer un dernier pavé sur la table, et puis voilà.
Ce qui est une question, en fait, qui, du coup, directement articulée à ça. Et qui, enfin, c'est juste parce que ça m'est venu à l'esprit il n'y a pas longtemps, mais on n'est plus capable de mourir d'amour aujourd'hui. Si quelqu'un vous dit demain, il est mort d'amour, pour nous, c'est un énoncé qui n'a plus de sens.
C'est pas la vraie cause.
Mais voilà ce qu'on va dire. On ne peut pas mourir d'amour avec l'idée que l'amour, c'est une vraie raison de mourir. Et si quelqu'un me dit demain, je veux mourir d'amour pour toi, je vais le considérer comme un fou. Et là, ce qui est intéressant, c'est que j'aurais vraisemblablement pas tort. C'est-à-dire que c'est nos économies affectives même qui ont changé. C'est pas juste les catégories, c'est pas juste les labels qui sont transformés. Voilà, comme s'il y avait le discours transcendant et puis les individus, quelque part, qui resteraient toujours un peu les mêmes au travers de l'histoire et c'est juste les discours sur eux qui changeraient. Non, je pense vraiment que il y a une histoire de la subjectivité et que de ce point de vue-là, il y a des types d'affects dont nous sommes capables aujourd'hui, dont sous les lumières, les gens n'étaient pas capables ou ne ressentaient pas en tout cas. Et vice-versa, il y a des affects qu'on ne peut plus ressentir. Et parce que c'est notre économie affective même, le tissu même de ce qu'on est en tant que sujet affectif qui a changé. Quoi. Enfin, il me semble.
Mais ça sera considéré comme un facteur de risque. Donc,
aujourd'hui, oui, clairement, le chagrin d'amour est un facteur de risque.
Est pathologique, hein, ou la cause du souci, par exemple. Mais on va dire que c'est un facteur de risque, donc il faut veiller à éviter, en tout cas, repérer les gens qui ont de mauvaises relations, des troubles.
C'est plus une raison, une raison de mourir, c'est une cause possible.
Mais c'est une manière de contrôler, du coup, vraiment de repérer les personnes qui sont les plus susceptibles à se suicider, à devenir fou.
Là, je pense que tu as fait une bonne synthèse de la journée parce que tu as touché les deux signifiants, l'amour et la mort, et on a quand même fait que parler de ça toute la journée. Donc,
bravo.
Donc si on n'a pas d'autres choses à ajouter, on va fermer cette journée si riche et si intéressante. Et en vous remerciant d'être venu, merci beaucoup.